Radio Barque, un invité sur Grand Sud FM pour mieux connaître ceux qui font l'actualité régionale. Radio Barque, bonjour, c'est le numéro 29 de la 10e saison. Je reçois aujourd'hui alors la réserve africaine de Sigean en la personne de sa directrice Christine Pellegrini. Bonjour madame.
Bonjour monsieur.
Et Gabriel De Jésus qui est chargé de la communication. Quel est votre rôle exact monsieur De Jésus?
Chargé de communication, c'est parfait.
C'est parfait. Donc deux intervenants qui sont d'ailleurs, qui font partie je dirais presque des meubles en tout cas, qui sont de très longue date dans le personnel de cette réserve. Mais s'ils sont là aujourd'hui, c'est quand même parce que cette réserve a 50 ans, Christine Pellegrini. Elle, oui. Un peu d'histoire.
Oui, oui, effectivement. La réserve africaine fête en 2024, cette année, donc les 50 ans du parc.
Voilà.
Elle a ouvert donc le 8 avril 1974.
Alors, pour ceux qui comptent bien, alors 74, pour ceux qui n'étaient pas nés ou ceux qui ont un peu perdu la mémoire, c'était l'époque de ce qu'on appelait la mission Racine, l'aménagement du littoral, c'est-à-dire d'immenses travaux dirigé par l'État et par M. Racine, haut fonctionnaire, et un certain nombre de stations, telles que Gruissant, Saint-Cyprien, etc., ont été aménagées. Et alors, évidemment, il y avait un attrait touristique pour cette région, mais comment est-on passé, alors, de l'aménagement touristique des stations balnéaires à l'idée de faire un parc tel qu'il est devenu aujourd'hui?
Mais ce parc a été créé à l'initiative de M. Paul de la Panouse et de M. Daniel de Montfred, donc qui était le fils d'Henri de Montfred, qui est architecte et qui, au moment de la mission Racine, ont été sollicités par Pierre Racine pour créer dans la région, au niveau Languedoc-Roussillon, un parc zoologique.
Oui, d'accord. Il y a eu une demande quand même au niveau de l'État, quoi. Un besoin qui s'est fait ressentir.
Oui. Effectivement. Et donc, c'est M. de la Panouse qui, lui, avait créé en 1968 le parc de Thoiry.
Qui était un pionnier en la matière.
Qui était un pionnier en la matière de parc zoologique de semi-liberté, des grands espaces.
Oui, ça, c'était plus les zoos de jadis.
Lui, la volonté qu'il a en créant Thoiry, ça a été de donner le plus d'espace possible aux animaux. Et donc, par rapport à la mission Racine, donc, il a eu l'idée de créer un parc zoologique ici, dans le département de l'Aude.
Voilà. Et alors,
il a obtenu l'autorisation, donc, en 1972, par Pierre Racine, de créer ce parc.
Alors après, il fallait trouver un lieu, il fallait trouver les terrains, il fallait les acquérir. C'est tout un processus, c'est une aventure presque.
Oui, alors Monsieur de la Panouse était sur place. Bon, il nous l'a raconté plus d'une fois. Hein. Il a rencontré les propriétaires, il a rencontré les élus, et c'est avec l'ancien maire de la mairie de Sigean, Monsieur Castan, Jean-Luc Castan, qui à l'époque faisait partie du CMA. C'était l'installation de Gruissant, je crois bien. Bon, moi j'étais.
Oui, c'est-à-dire il avait un pied dans l'aménagement du littoral.
Voilà, et qui lui a dit, écoutez, moi j'ai un site effectivement qui pourrait se prêter à l'installation donc d'un parc zoologique de semi-liberté.
Voilà. Donc Sigean, alors une configuration, une allure.
Voilà, ouais.
Ça ressemble un petit peu à l'Afrique hein, aussi, paraît-il. Et alors surtout. D'après ce qu'on m'a dit, c'est un endroit qui est placé sur des couloirs de migration des oiseaux. C'est vrai ?
Oui, effectivement. Hein. Donc on est dans le couloir migratoire de plusieurs espèces d'oiseaux qui, tous les ans, passent régulièrement et se posent sur la réserve de plus en plus longtemps. Maintenant, suite au réchauffement climatique, on a par exemple les cigognes qui passent plusieurs mois sur la réserve africaine. Bénéficie de la météo, de la nourriture.
Donc vous avez des passagers clandestins chaque
oui,
été.
Oui, voilà, complètement. Ouais.
Qui sont des locataires passagers.
Complètement, oui, tout à fait.
Oui, et les touristes en profitent alors.
À certaines périodes de l'année, effectivement, il y a des grands groupes de cigognes, par exemple, qui se posent sur le parc et qui restent.
Et qui profitent de cette grande ligne migratoire, nord-sud, sud-nord.
Ouais. Ouais. Et quelquefois, même, on en a qui restent, qui vont pas plus loin, quoi, qui restent sur la réserve, d'ailleurs.
Ah oui,
c'est vrai que par le passé, il y avait plus de migration, et là, on peut avoir, selon les journées, des groupes de 300, 400 cigognes blanches
qui restent
sur le parc. Oui. Qui restent. Pas toutes restent sur le parc, mais au moment T, on peut avoir ces grands groupes-là. Les cigognes arrivent au mois de février. Généralement, c'est le mâle qui arrive le premier en février, il reconstruit le nid. Ensuite, la femelle arrive, ils font leurs petits et ils repartent en septembre-octobre. Donc, ils restent 7-8 mois sur le parc. Il y en a qui s'en vont, il y en a d'autres plus sédentaires qui restent à l'année.
Oui, donc vous n'avez pas besoin d'avoir des cigognes dans la réserve. Les cigognes arrivent et elles offrent leurs services en quelque sorte. Alors ça, c'est intéressant aussi. Et au début, donc, les terrains ont été acquis, ont été aménagés. 80 hectares, on parle,
c'était ça.
C'était déjà pas mal au début.
Oui, à l'époque, c'était ça, c'était 80, 85 hectares. Donc, il y avait un parc en voiture qui se faisait, donc les touristes, les visiteurs entraient avec leur véhicule. Il y avait le parc à ours avec les rhinocéros. Et ensuite, il y avait le parc à lion. Voilà. Et ensuite, les gens, les visiteurs, allaient sur les parkings et faisaient la partie à pied.
Oui, ça, c'est la première mouture, années 70.
Premières, 74 jusqu'en dans les années 80. Quoi.
Voilà. Oui. Voilà. Et alors, ce terrain, cet espace, si je puis dire, se trouve aussi à l'embouchure d'une rivière, de la Bère, qui parfois pose quelques problèmes dans l'histoire.
Oui, qui nous a posé des problèmes.
C'est un fleuve côtier méditerranéen avec tout ce que ça implique.
Oui. Qui nous a posé des problèmes à partir de 1999, suite à la crue centennale.
Oui.
Voilà. Donc, en fait, ça a provoqué des dégâts tellement importants qu'il y a une brèche qui s'est faite dans la rivière et qui, par la suite, a donné plusieurs inondations importantes sur le parc. Voilà, on a été inondé plusieurs fois.
Oui, c'est ce qui me semble. Donc, la Bère a eu aussi, a causé ses dégâts. Depuis, il faut dire qu'il n'y a pas eu de telle crue non plus.
Non, depuis 2014, effectivement, on n'a pas... Mais je veux dire, c'est la dernière grande crue qu'on a eue en 2014.
Il n'y a pas eu d'aménagement sur la Bère en amont.
Non.
Parce que vous les réclamiez un petit peu, il me semble.
Oui. C'était un gros dossier à une certaine époque. C'est vrai que depuis, il y a des travaux qui sont faits quand même dans la rivière, d'entretien. Voilà. Il y a des choses qui se font. Mais pour nous, on n'a pas enregistré de nouvelles inondations.
Oui,
voilà.
C'est un petit peu l'heureux hasard. Alors donc, au début, 80 hectares. Et puis, alors, ça s'est agrandi considérablement. Il y a quelqu'un qui s'appelait Jean-Jacques Boisard qui est arrivé, qui a... vraiment pris le taureau par les cornes, si je puis dire, Madame Pellegrini.
Oui, il est arrivé. Monsieur Boisard est arrivé en mai-juin 1976. Et à partir de là, lui, il était venu pour la réserve africaine de Sigean à l'époque avec quelques difficultés.
Donc, financières.
Financières.
De gestion.
De gestion. Et donc, ça n'allait pas très bien. Et donc, il était venu pour faire des audits de gestion.
Oui, c'est un comptable qui était venu.
Oui, complètement.
Ce n'était pas un homme de réserve africaine.
Mais c'est vrai que, il a apprécié le lieu, il s'est plu. Et à partir de là, il est resté sur le parc. Il a eu envie de donner encore plus d'espace aux animaux, de créer d'autres parcs. Et c'est ce qu'il a fait tout au long des 40 années qu'il a passé sur le parc. Donc les 80 hectares d'origine sont devenus 350 hectares.
Oui, alors c'est-à-dire grosso modo 4 fois plus quand même,
pas rien.
Mais la partie utile, c'est-à-dire ouverte aux touristes, c'est quoi ?
Aujourd'hui, c'est 160 hectares. Le parc animalier, c'est 160 hectares.
Voilà, c'est quand même le double de ce que c'était à l'origine. Et alors, il faut préciser que ces terrains annexes, si je puis dire, ne sont pas là par hasard. Ils ont un rôle particulier, les uns et les autres. Ces terrains annexes.
Ah oui, complètement. Oui, il y a la partie parc animalier. Et ensuite, il y a une partie aussi qui a été créée, qui sert à la culture des fourrages. Pour nourrir les grands troupeaux d'herbivores qui sont dans la plaine africaine, la savane, la brousse. Voilà. Et ensuite, il y a toute une partie que M. Boisard a achetée et qu'il voulait laisser volontairement naturelle pour que ben, il n'y ait pas des constructions.
Oui, un bon stratège, il avait voulu construire des zones tampons.
En faire une zone biologique, en fait, afin de conserver au maximum la biodiversité qui sont sur ces terrains.
Oui, c'est-à-dire ce sont des terres qui restent telles quelles.
Ah, complètement.
Tout à fait. Totalement sauvage et naturel. Vous disiez une petite ferme, au lieu de vaches, nous avons des rhinocéros, au lieu de chats, nous avons des lions, au lieu de chiens, nous avons des licaons, donc toute une faune sauvage africaine.
Oui, voilà. Et alors, donc, ceux qui mangent de l'herbe, alors c'est quoi? C'est les girafes,
les rhinocéros.
Les rhinocéros. Ensuite, dans la plaine, il y a toutes les antilopes, les gnous, les springboks, les impalas.
La ferme produit assez
on doit quand même compléter, hein. Mais on favorise d'abord les cultures que nous produisons, parce qu'en qualité, c'est quand même beaucoup mieux. Mais vu les troupeaux que nous avons, nous sommes obligés de compléter, nous devons compléter par des achats de fourrage.
Ah oui, oui, voilà. Mais ces animaux sont gâtés, ils mangent bio finalement, ou produits
locaux. Complètement, oui. Aucun pesticide, aucun désherbant, aucun produit chimique n'est utilisé sur le parc. Hein.
Oui, donc parmi le personnel, vous avez des gens qui sont des fermiers en quelque sorte.
Ah oui, avons...
Nous avons Monsieur Culture.
Monsieur Culture,
qui s'occupe justement des cultures, de ces 80 hectares.
Qui est un agriculteur, d'une certaine façon.
C'est ça. Avec ses tracteurs, avec tous ses engins agricoles. Et après, nous avons un service espace vert également.
Oui, un service espace vert qui, lui, travaille beaucoup plus sur le parc, effectivement. Parce que la végétation aujourd'hui sur le parc n'a plus rien à voir avec la végétation d'il y a 50 ans.
Oui.
Il y a 50 ans... Il n'y avait rien, c'était...
Oui, alors vous parlez des plantations. Quoi.
Voilà, tout ce qui est plantation.
Et alors justement, quel est... on va garder ça pour une seconde partie, Madame Pellegrini, si vous le voulez bien. Mais effectivement, il faut planter, mais il ne faut pas planter n'importe quoi, n'importe comment. Et là encore, vous avez, j'imagine, des experts qui vont vous dire voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut surtout pas faire. On peut imaginer ça.
Oui, complètement, oui. Mmh. Puis avec le réchauffement climatique, ça fait complètement revoir
là,
également...
Oui, c'est-à-dire, là encore, il y a une remise en question supplémentaire.
Oui.
On en reparle dans une deuxième partie, et on marque, Madame Pellegrini, Monsieur de Jésus, une première pause.